Bonjour, bienvenue sur Paris Central. Je suis accompagné de Gato et de Basto. Recoba va peut-être nous rejoindre. Il a peut-être un petit souci, donc on verra, mais il sera peut-être là. Bonjour à tous ceux qui sont déjà avec nous. Et on va se demander si ce PSG aurait eu le niveau au regard des deux demi-finales de Ligue des Champions qu'on vient de voir. Et d'une manière générale, les deux matchs ont répondu aux attentes. Certains ont exprimé quelques déceptions, mais ça a répondu à des attentes. Est-ce que tu penses qu'on aurait pu avoir une chance contre ces équipes? Tu penses qu'on peut atteindre ce niveau-là, Gato?
Moi, je pense pas. Déjà, bonjour à tous, bien évidemment. Je ne pense pas parce que, juste au terme d'intensité, les courses, la concentration sur les différents marquages de zone, marquages individuels, tactiquement et dans l'intensité, juste physique et tactique, on n'a pas le niveau. Donc, en plus, à ce niveau-là, tu as la pression des stades et tout. Nous, on se connaît, un match aller-retour, c'est compliqué pour nous. Non, 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 c'est triste, mais on n'a pas notre place là-bas.
Et toi, Basto, on a déjà vu sur les saisons précédentes le PSG qui, parfois, sur certains matchs, arrivait à se réveiller. Est-ce que tu penses que là, ça aurait été dead? Et pourquoi?
Dans le niveau du Milan AC d'hier, pourquoi pas? Ils s'en sont déjà sortis contre Naples un peu, pas par miracle, mais avec un Maignan extraterrestre qui sauve contre Naples, mais c'était pas du grand Milan qui était plutôt dominé par Naples. Et hier, ils ont été complètement submergé par l'Inter, donc par rapport à Milan AC, oui, par rapport aux trois autres, non, pour plusieurs raisons, hein. Gattuso a dit l'intensité, etc. Il y a aussi évidemment tactiquement, sous Pocket, on avait pu rivaliser, avant aussi, on avait pu rivaliser, mais avec Galtier, on a vu que bah, tactiquement, déjà, même en Ligue 1, on le voit, on ne va pas refaire toute l'histoire tactique, toute l'histoire de Galtier, mais quand on voit les ajustements que l'Inter fait hier en mettant Brozovic sur le banc avec un. Au début, les supporters de l'Inter qui étaient très critiques sur les réseaux sociaux, puis à l'arrivée, on voit que c'est Calhanoglu qui fait pas mal de différence et qui était préférable à Brozovic et le milieu qui a surdominé celui du Milan. Quand on voit Real City, même si pour moi, ce n'était pas un grand match à suivre, mais tactiquement, ne serait-ce que la première mi-temps, quand on voit que City, c'est City qui domine, mais à chaque fois, leurs occasions de tir sont dans des positions où ce n'est pas vraiment dangereux pour Courtois. Et derrière, le Real les amène toujours dans des zones spécifiques, ce que Paris ne sait pas faire. Hein. Nous, on laisse des joueurs libres. C'est pas on laisse dans une zone, on laisse tous les joueurs dans la bonne zone. Nous, c'est l'inverse. Donc, ouais, non. Puis le Real a aussi cette aura. On voit que City, même cette année en Ligue des Champions, les équipes ont un peu peur du Real. Ne joue pas forcément comme Pep joue en championnat. Donc, voilà, tu as cette aura, l'aura du Real. Tu as la City, même malmenée, qui a toujours un plan de jeu, même sans faire un grand match, qui reste spécifique dessus. Et l'Inter qui a des ajustements tactiques. On est très loin des trois, pas forcément individuellement, mais
Et
sur tout le reste.
si tu devais lister tous les éléments qu'il nous manque, tu
Ah oui,
nommerais
oula. On pourrait faire une
quel...
heure dessus.
On va pas faire une heure, tu vas nous faire un résumé. Les points, en points, quels sont les éléments qui nous manquent pour être à ce niveau-là, à ton avis?
Ouais, c'est qui tu poses la question?
À toi, enchaîne, et puis après on
Bah,
passera à Gâteau, puis on intervertira à chaque fois.
une mentalité, une cohérence d'effectifs, tout con, quand on voit que l'Inter joue à 3 derrière hier, mais ils ont vraiment deux attaquants faits pour, avec Dzeko, même s'il a 37 ans, qui a un pivot avec Lautaro Martinez qui tourne autour, c'est parfaitement fait pour ce système. Nous, on n'a pas les joueurs pour. Donc, cohérence d'effectifs, mentalité et tactique.
Est-ce que tu en rajouterais, toi, Gâteau, et lesquels?
Mais je rajouterais peut-être un peu détermination et supplément de soi, dépassement de fonction. C'est parce que tu vois, par exemple, tu as Calhanoglu qui initialement est un vrai 10 dans un 4-2-3-1, pas plus, qui arrive, qui peut jouer 8 et combiner. Tu as Mkhitaryan qui est un vrai 10 dans un 4-2-3-1 et pas plus, qui arrive aussi à combiner et de courir. Donc, non, c'est vraiment ce qu'a dit Basto. Plus la détermination et le dépassement de soi, dépassement de fonction. Il y a énormément de points pour qu'on puisse ne serait-ce que rivaliser, pas forcément écraser l'adversaire. Et donc ça, c'est à revoir. Et en plus, c'est vu en Mojo Vision, il y a pas mal de petits joueurs intéressants. Techniquement aussi, on est à la rude par rapport à ça. Donc il y a beaucoup, beaucoup de points.
Alors moi j'aurais juste rajouté l'expérience aussi. Par exemple, si on se fie à un City qui depuis de nombreuses années se casse les dents, et c'est à mettre aussi en relation avec nous le fait qu'on n'était pas si loin que ça il y a encore 9-10 ans, et qu'on n'a fait que régresser depuis, et qu'on stagne. Et donc, effectivement, on est obligé de repartir dès le départ. Et de toute façon, même, c'est ça qui est là, pour moi, un des points importants. C'est-à-dire que tu fais tout bien, il te manquera de l'expérience dans un premier temps. Mais il y a Rekoba qui arrive, on va le faire. Hop. Hello Reko, comment vas-tu?
Salut, ça va? Désolé pour le retard.
Pas de souci. Bah, on était en train de parler, des deux demi, qui ont eu lieu cette semaine, et notamment qu'est-ce qui pourrait manquer à Paris pour pouvoir atteindre ce niveau. Il y a l'envie qui a été nommée, il y a la disponibilité, la capacité, le dépassement de fonction qui a été nommé. Moi, j'ai nommé l'expérience. Est-ce que tu verrais des trucs à rajouter?
L'intensité, j'ai plus trop écouté. Ouais, l'intensité, la force du milieu de terrain aussi, parce que c'est un petit peu la base du football. On n'a pas du tout le milieu de terrain qu'il faut, surtout quand on a vu. City avait l'emprise sur ce match, mais même le Real a su quand même, malgré la domination, on va dire, de City qui avait la possession, savait ressortir, bien jouer dans les transitions, bien défendre aussi, bien couvrir les couloirs, bien aider les latéraux. Même dans l'axe aussi, où ils ont quand même pas mal muselé De Bruyne. Donc moi, c'est surtout ça qui m'a frappé, c'est la puissance des milieux de terrain. Et d'ailleurs, on l'a vu avec le Milan qui a sombré, le Milan AC qui a sombré, le milieu de terrain du Milan a sombré. Défensivement, ils ont sombré. Et quand tu vois la solidité des trois équipes qui sont bien ressorties sur ces demi-finales, pour moi, je trouve que ouais, c'est surtout le milieu de terrain où je trouve que le PSG est vraiment loin.
Okay. Est-ce que Basto, vas-y.
Je rajouterais un truc qui est la profondeur d'effectif, ou plutôt la différence moindre d'écart entre titulaire et remplaçant. Quand tu vois que l'Inter se met Brozovic sur le banc, c'est comme si nous on mettait Verratti sur le banc et qu'on pouvait se le permettre pour un choix tactique. Quand tu vois que Skriniar est blessé depuis 6 mois mais que l'Inter continue à bien performer sans lui, c'est une chose aussi qui nous sépare de ces clubs qui sont actuellement demi-finale.
Et tu as le travail défensif aussi de tous les attaquants, des ailiers qui aident les milieux de terrain, qui aident les latéraux. Quand tu vois la débauche d'énergie de Lautaro Martinez, de Giroud, de Haaland, enfin bref, de tous les attaquants, de Vinicius, de Rodrigo, quand tu vois au Paris Saint-Germain, devant, ça marche. Et puis quand ils touchent le ballon, ils ne sont même pas capables de faire quelque chose de bien. Donc ouais, ça c'est en fait c'est la débauche d'énergie de toute l'équipe. Voilà, collectivement, c'est assez bluffant.
Mais pour rebondir sur ce que tu dis, justement, est-ce que dans ces équipes, il y a genre une star? Ou il n'y a que des joueurs d'équipe, justement? Parce que nous, on en a trois, en fait.
Bah, tu as des stars, mais c'est des stars quand même d'équipe. Benzema, ça reste une star, mais c'est un joueur d'équipe. Un Vinicius, c'est quand même une star montante depuis des années, et pour autant, il fait les efforts. Alors oui, c'est pas Messi, c'est pas Neymar, c'est pas Mbappé. Mais après, Neymar, c'est une star, il fait quand même les efforts, je trouve. En tout cas, quand il y a eu le trio, c'est lui qui faisait le plus d'efforts. Un Lautaro Martinez, ça reste quand même la star de l'Inter, même si, évidemment, ce n'est pas une star comme un Messi, comme Mbappé, etc. Mais on va dire, les stars qui ressortent de ces équipes-là, ça reste quand même des joueurs d'équipe qui font passer le collectif avant tout et qui font les efforts pour tout le monde. Donc après, c'est peut-être aussi le fait que ce ne soit pas des stars au niveau des joueurs que nous, on a nous, mais je trouve quand même qu'ils font les efforts.
Ce que je voulais dire, et Gato, je vais te faire rebondir dessus, c'est en fait, on se retrouve avec des... Tu parles, c'est des joueurs collectifs, alors que nous, on se retrouve avec clairement trois individualités. Et la question que je pose, c'est-à-dire que même si tu fais tout ce qui va bien, si tu te retrouves avec trois personnes qui vont avoir une démarche individuelle dans leur approche au foot, même ne serait-ce qu'une, est-ce que ça peut encore marcher dans le foot d'aujourd'hui et au niveau de la Ligue des Champions? Qu'est-ce que tu en penses, Gato?
Ouais, moi, je pense pas. Aujourd'hui, c'est ce qui prime, c'est un collectif fort, au-delà des individualités, même si tu en gardes une, celle-ci doit se permettre de... peut-être sur certaines séquences, à la rigueur, ou dans des petits matchs, voilà. Mais à ce niveau-là, en Champions League, non. Tout le monde doit pouvoir courir, tout le monde doit pouvoir... faire des efforts, occuper certaines zones pour conserver un certain équilibre. Et même avec cet équilibre, et même avec cette concentration extrême, t'es pas sûr de gagner. Alors si tu le fais pas, c'est vraiment, vraiment impossible.
Alors du coup, Basto, j'ai envie de te demander, est-ce que la solution, c'est pas de virer les trois?
Virer les trois, ça peut être une solution. Comme dit, vas-y, Basto.
C'est compliqué de virer les trois d'un coup pour reconstruire. Après, on est un peu dans du fantasme football manager. Maintenant, si tu peux le faire, oui, pourquoi pas.
Ce serait marrant comme fantasme football manager où tu enlèves Messi, Neymar et Mbappé. Quoi. Ce serait pas très
ouais, fou. Après, moi, j'avais ce fantasme tu prends les stars montantes de 20 ans, 21 ans et tu fais un projet sur 5-6 ans. Mais non, c'est... Ça va être très compliqué de toute façon de le faire, donc on est plus dans du fantasme, mais si tu peux virer les trois, oui. Après, c'est toujours la question de par qui tu les remplaces et comment et qu'est-ce que tu fais derrière. Et ça, on sait qu'on sous QSI, on n'a pas très bien remplacé les départs de Mota, puis de Silva, etc. etc. Donc ça devient très risqué de virer les trois vu notre passif.
D'accord. Bon, bah maintenant je vais vous lancer sur. Ah bah vas-y, Rico.
Non, mais je voulais juste dire aussi que ces joueurs, ils ont des jambes, mine de rien. Et à Mbappé, il faisait quand même un minimum d'efforts à Monaco. Ça fait, même au niveau de ses courses d'ailleurs, hein, sur ses appels, il fait beaucoup moins d'appels qu'avant. Il s'économise beaucoup plus, je trouve. Et un Neymar, c'est pareil. Il y a des matchs où il marche, mais il y a des matchs où il a enchaîné les grosses performances, où il courait à peut-être plus de 10 km, 11 km. Donc, ces joueurs-là ont des jambes et sont capables de courir et de défendre, au moins d'occuper une zone pour gêner. C'est le strict minimum. Donc, il faut aussi un entraîneur qui puisse leur faire comprendre ça, les fédérer et qui puisse faire les efforts chacun pour tout le monde. Et ça fera aussi partie d'un collectif qui s'apprécie parce qu'on le sait, souvent une équipe qui marche bien ensemble, qui s'apprécie, bah, sur le terrain, tu peux mourir pour tes coéquipiers, tu fais des efforts. Alors que s'il y a des conflits d'intérêts, etc., etc., on sait que bah, sur le terrain, ça se ressent et tu ne vas pas courir pour ton pote. Donc, ces joueurs-là ont des jambes et il faut qu'ils le
montrent. Le groupe vit bien.
Est-ce que ce n'est pas inévitable justement quand tu prends trois mecs qui veulent être la tête d'affiche d'un projet que tu aies ces conflits d'intérêts?
Bah, c'est compliqué. Alors après, tu peux prendre l'exemple de la MSN et de la BBC, mais le problème, c'est que tu avais quand même des joueurs qui étaient un petit peu en dessous, on va dire. Il y avait quand même Bale et Benzema qui étaient, on va dire, au service de Ronaldo. Et tu avais Neymar qui était très jeune au Barça avec un Suarez qui était quand même un joueur d'équipe, mine de rien, ce qui faisait la force de ces deux trios. Alors que là, tu as vraiment les trois têtes d'affiche. Ouais, je pense que pour moi, c'est impossible. Pour moi, c'est impossible d'avoir trois têtes d'affiche comme ça et que tout le monde court au même niveau. Impossible.
Et bon, je vais vous lancer maintenant comme sur un joueur dont on a beaucoup, beaucoup parlé pour le Paris Saint-Germain, c'est Bernardo Silva. Il y a pas mal de critiques qui émanent, notamment lors de son match contre City. Il s'est fait enguirlander par ses coéquipiers, notamment pour un oubli en deuxième mi-temps. Est-ce que ça remet en cause le joueur, pas tant dans ses qualités, mais dans sa capacité à performer au plus haut niveau? Qu'est-ce que tu en penses, Basto?
Il se fait enguirlander. Nous, j'aimerais bien qu'on voit des joueurs se faire enguirlander quand ils ont un niveau, on va dire, bas comme il a. Puisqu'il ne fait pas non plus un match catastrophique, hein, notamment les 25 premières minutes où c'est le maître à jouer de City. Alors après, il disparaît un peu, notamment dans les duels où il prend plusieurs coups et un peu frivole. Mais si ça, c'est un niveau bas pour un joueur, j'achète. Hein.
D'accord. C'est, du coup, ça reste le profil qu'il te faut, toi.
Bah oui, il peut jouer ailier, il peut jouer 8, il peut jouer 10, évidemment qu'on a besoin d'un joueur comme ça.
Gâteau, quelle est ta lecture dessus?
Moi je prends, et puis ça peut arriver aussi à quelqu'un de rater sa demi-finale, c'est pas honteux. Maintenant, est-ce qu'on peut remettre en doute au plus haut niveau? En tout cas au quotidien, il est très bon. Après, dans les moments clutch, t'as aussi le droit de te reposer sur d'autres joueurs. T'es pas forcément obligé de te reposer que sur lui tout le temps. Donc moi je prends, moi j'en ferai un dans un 4-3-3 ou dans un 4-2-3-1, je ferai en 10 ou en 8, et on a besoin de ce genre de joueur, bien évidemment.
Rico, qu'est-ce que tu en penses?
Ouais, ce serait réducteur de penser ça, parce que le Real a fait un bon match, les a bien cadenassés, Camavinga a été extraordinaire, ça aurait pu être l'homme du match d'ailleurs, donc c'était du côté de Bernardo Silva, il y avait des prises à deux aussi souvent, donc c'est pas facile pour lui, et puis surtout, aucun offensif de Manchester City est ressorti de ce match, à part peut-être De Bruyne, mais que ce soit Grealish ou Haaland, ils ont été bien muselés aussi, et même De Bruyne aussi, mine de rien, donc... C'est difficile d'incriminer uniquement Bernardo Silva. On sait que c'est un métronome, que c'est un joueur qui touche beaucoup de ballons, qui a un danger permanent. Et du coup, il y a eu pas mal de prises à deux souvent. Donc forcément que bah, ça peut arriver d'être bien muselé lors d'un match, surtout quand tu joues une demi-finale face au Real Madrid. Donc non, pour moi, on a absolument besoin de par son profil et de sa polyvalence, tout simplement.
Après, il s'est fait enguirlander pour un souci de concentration, notamment sur une action dans la surface, pas dans la surface, mais aux abords de la surface de réparation de City.
Et ça s'appelle l'exigence.
Voilà, c'était plus pour un souci de concentration, mais justement, parce que c'est un vecteur important, c'est un des éléments qui nous manque, en fait, quand on arrive dans ces matchs-là, c'est qu'on n'a pas cette exigence-là où tout le monde doit être à 150%, et si tu n'es pas à 150%, bah, tu as tout de suite quelqu'un qui te reprend, quoi. Mais bon.
Exigence, elle est valable, ouais, justement, juste pour clôturer, justement, bah, cette exigence, elle sera valable aussi pour le sujet qu'on parlait d'avant, c'est-à-dire Mbappé, Messi, Neymar. Si tu as l'entraîneur qui te met l'exigence, bien appuyé, bien sûr, par le directeur sportif et le président derrière, s'il faut, mais si tu as l'entraîneur qui te met cette exigence-là, ben, tu pourras avoir trois joueurs qui courent devant et tu pourras avoir des joueurs qui sont bien au-dessus même de leur niveau.
On va enchaîner par toi, Réco, parce qu'on va parler de la Ligue 1 que tu adores. Et que tu suis pas mal, mine de rien. Et j'ai envie de te demander, tu sais, on a vu un Camavinga qui a brillé de mille feux justement pendant ce match-là, avec un petit peu de laisser aller sur la fin du match, mais qui a fait 70 premières minutes de toute beauté. À ton avis, quel est le prochain crack en mode Camavinga qui est en Ligue 1, qui est en train d'arriver là?
Bah, pour moi, parce que j'avais vu les sujets, pour moi, sincèrement, ce serait manquer de respect à Camavinga que d'en trouver un. Parce qu'aujourd'hui, un Camavinga, c'est ultra rare, vraiment. Et on le voit d'ailleurs, à son âge, il s'impose au Real Madrid. Alors que même un Tchouaméni, qui est un crack aussi, il a du mal. Donc, c'est fort ce que fait Camavinga, parce qu'il s'impose au milieu, il s'impose en latéral gauche, ça, c'est fort. Donc, à la limite, le seul que je pourrais trouver qui a le talent de s'imposer aussi rapidement, que ce soit au Paris Saint-Germain d'ailleurs et ailleurs, je pense, c'est Zaïre Emery. Après, il y a d'autres petits cracks qui peuvent arriver en dessous, qui pour moi peuvent être Désiré Doué à Rennes et Eli Wahi à Montpellier, mais ça reste pour moi en dessous de Camavinga et en dessous de Zaïre Emery.
Gâteau, quelle est ta lecture toi sur la Ligue 1 et sur les potentiels en Ligue 1?
Il y a du potentiel, mais comme vient de le dire Rekova, il n'y a pas un potentiel au niveau de Camavinga. Camavinga, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. On avait découvert à Rennes justement, face au Paris Saint-Germain à l'époque, où il nous avait battu, c'était sous Thomas Tuchel. Mais actuellement, c'est plus des équilibres et plus des effectifs forts que je vois que des petites individualités comme lui, il a pu se révéler à Rennes. Même si à Rennes, il était dans le collectif, mais comme il était vraiment devant la défense tout seul et qu'il gérait bien, on l'a vu. J'ai pas spécialement de joueurs. Même Zaïre Emery, j'attends confirmation avant de pouvoir me dire que c'est un crack. C'est un crack parce qu'il est assez jeune et qu'il est là déjà. Mais il est là parce que, mine de rien, au milieu de terrain, nous, on est très, 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 très faible aussi. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon, attention, mais j'attends confirmation quand même. Voilà.
Basto.
Ouais, juste une petite aparté par rapport à ce qu'a dit Réco sur Tchouaméni, Camavinga. Camavinga a passé une première année aussi sur le banc, donc on ne va pas enterrer Tchouaméni, qui est peut-être là pour apprendre une année. Maintenant, je rejoins mes deux compères sur le fait qu'il n'y ait pas de crack, on va dire, générationnel. Affiché pour le moment, en tout cas en Ligue 1, il y a des très bons jeunes, que ce soit Lyon avec Barcola, Loukeba, mais ils ont déjà 20 ans, donc ils ont déjà l'âge de Camavinga, même plus âgé. Tu as le petit Yago à Lille, mais voilà, on est loin de joueurs qui sont potentiels titulaires dans un ou deux ans dans un club comme le Real Madrid. Ouais,
ça allait même plus loin avec Kama, tu avais quand même une impression de crack générationnel, quoi, quand il avait 17 ans et qu'il commençait à briller.
Voilà, tu as eu Benzema, tu as eu Mbappé, tu as Camavinga, donc il n'y en a pas tous les ans, c'est sûr.
Mais du coup, Gâteau, j'ai envie de te demander, vas-y, Réco, hein, tu voulais y aller?
Ouais, non, à 16-17 ans, il n'y en a pas beaucoup, et Zaïre Emery vient d'avoir 17 ans, mais surtout, ce pourquoi je mets Zaïre Emery aussi, c'est outre le niveau affiché, c'est la maturité qu'il peut afficher dans son jeu. On le voit notamment, c'est assez choquant par rapport à El Shaddai, on voit une nette différence alors qu'ils ont le même âge, si je ne me trompe pas. Et Zaïre Emery, tu sais, il ne se prend pas la tête sur le terrain. Il joue, même si c'est un match à enjeu, à responsabilité, même si tu le mets sur un côté droit aussi, bah, il fait son match, il est bon, il apporte quelque chose alors qu'il a 16-17 ans. Et tu vois, il y a une maturité dans son jeu, une insouciance qui te ramène à des Camavinga à son âge et encore aujourd'hui, et à Mbappé aussi à Monaco.
Alors, je vérifie, mais il me semble qu'ils avaient le même, qu'il avait un an de moins, mais tu as peut-être raison. Ouais, a priori, ils ont le même âge. Du coup, Gâteau, j'ai envie de te demander, est-ce que pour toi, tu as des regrets concernant Camavinga? Parce qu'on sait que Leonardo aurait pu le signer, mais ça ne s'était pas fait parce que Leonardo ne s'entendait pas avec l'agent du joueur. Est-ce que du coup, ça t'active? Enfin, tu ressens des regrets par rapport à tout ça?
Bien sûr, parce que mine de rien, moi, c'est pas quelque chose de grave de faire comme ce qu'avait fait Lyon dans les années 2000. Dès qu'il y a un bon joueur dans l'Hexagone, hop, toi tu viens chez nous, toi tu viens chez nous, tu viens chez nous, et après on va se débrouiller. Après on n'a qu'à te faire performer, Mais au moins, il est chez nous, il est sous contrat avec nous. Là, imaginons, en fait, les joueurs partent du championnat de France. Et après, on va commencer à devoir les surpayer pour qu'ils reviennent alors qu'ils étaient comme Kolo Muani, par exemple, qui était à Nantes. Rappelez-vous que Kolo Muani, au bout d'un moment, il joue en réserve à Nantes. C'était pas fameux avant de venir et de performer. Donc oui, j'ai des regrets. Maintenant, on sait aussi qu'il y a un tarif PSG un petit peu, surtout dans le championnat de France. Est-ce qu'en termes de contrat, le joueur n'était pas trop gourmand avec l'agent, etc. Et que le prix n'était pas trop cher pour ce que c'était? Le Real l'a eu à 35 millions, je crois bien.
Ouais.
Et nous, ça allait être du 60, 60, 70, 80. Donc c'est ça
À
aussi le
ce
truc.
moment-là, mais il y avait eu une première approche qui avait où ça aurait été moins et où ça avait bloqué bien avant qu'on parle de prix, juste parce que Leonardo n'aimait pas ne
Deuxième
s'entendait
approche.
pas
Au début,
avec
il demandait
l'argent.
80. Interview
C'est après, hein.
d'Origogo dans le Parisien ou dans Ouest France, je ne sais plus, où il dit ce sera pas moins de 80. Ça avait
Tu
commencé comme
vois?
ça.
Tu vois ce genre de choses-là? Donc au PSG, on est bloqué.
Ok. Moi, je ne le connais pas. Qui parmi vous connaît bien Mikael Olise?
Bah, je l'ai
Pas du
vu.
tout.
Bah,
Alors,
pour
ça
être
va être
honnête avec
un gâteau.
vous savez que j'aime Manchester United et je suis énormément au club. Donc, je me rappelle, il a mis un top coup
Sinon, tu
franc
vas avoir
contre.
peut-être QSI2.
Ce serait bizarre.
Parce que Olise, c'est
Mais
pas fan de QSI, du coup.
QSI, QIA et tout. Non, et bah écoutez, il y avait un match Crystal Palace, Manchester United. Il a mis un top coup franc à la 90e minute. Dans les moments clutch, il est bon. C'est un ailier qui va pas forcément percuter. C'est un peu plus comme Bernardo Silva, hein, si tu le mets sur le côté, qui va être un peu plus dans le contrôle. C'est pas un genre de rupture à la Riyad Mahrez qui va venir te percuter, te travailler tes latéraux. Alors, est-ce que tu as besoin d'un mec qui va venir percuter? Type Riyad Mahrez, tous ces ailiers de provocation, bon, j'ai pas envie de mettre Anthony, mais bon, Anthony, Souleymana, tous ces joueurs-là, où tu as besoin d'un mec comme Bernardo Silva qui va plus être dans le contrôle dans ton flanc droit, t'as le choix, mais
Parce
lui
que
c'est plutôt
justement,
la deuxième option.
il y a des rumeurs qui apparaissent le concernant et le board serait intéressé par son profil. Enfin, d'après ce que tu me décris, ça me fait penser aussi à Di Maria, un départ qui n'a pas été compensé. Est-ce que pour toi, ce serait la bonne pioche, justement, comme tu connais le joueur, est-ce que ce serait la bonne pioche pour le Paris Saint-Germain, compte tenu justement du fait qu'on n'ait plus ces ailiers de rupture, alors même s'il est plus en contrôle, qui a quand même ces capacités-là?
Ah, il a quand même de la vitesse, attention,
Ah,
hein,
voilà.
il peut
Est-ce
se
que
faire mal aussi. Hein.
pour toi, ce serait une bonne réponse par rapport à ce manque-là à Paris?
Bah, et tu joues dans quel système, c'est ça le truc. Ah,
On ne
parce
sait pas
que,
qui est le coach.
bah ouais, mais le problème c'est que, est-ce qu'on fait un système et on essaie d'inclure les joueurs selon le système dans lequel on veut jouer absolument, voilà, ou on fait un système selon les joueurs qu'on a. C'est ça le bordel,
Je
tu
fais avec
vois.
les infos que j'ai. Pour l'instant, j'ai aucune rumeur sur des coachs. J'ai des
Non,
rumeurs sur des joueurs.
honnêtement,
Donc,
je prends, il va nous aider. Sur un 4-4-2 à plat, un 4-3-3 en tant qu'ailier droit, il va nous aider, il peut faire des belles choses. Après, dans un 3-5-2, faudrait voir comment tu t'organises, mais il va pouvoir nous aider en tout cas à occuper le flanc droit qui est quand même très très vide parce que les montées d'Hakimi sont pas utilisées dans le sens où on lui donne pas la balle facilement. Et sinon, il n'y a pas vraiment d'ailier. Donc on a besoin de lui, on a besoin de ce genre de profil. Même en doublure, titulaire ou doublure, peu importe, si tu as par exemple plus lui, ça va nous arranger. D'autant plus que c'est un francophone.
Basto, tu voulais réagir, j'ai cru voir.
Ouais, tu ne m'as même pas fait réagir sur Camavinga, Eko et moi.
Ah, pardon.
Est-ce
Ah oui, sur
qu'on
Camavinga
dirait...
Léo.
Oui, je peux réagir dessus du coup
Vas-y,
avant.
vas-y, 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 vas-y.
Juste Camavinga, en début de mercato, on en parle. Ensuite, il y a Messi qui arrive. Donc le regret, c'est là-dessus. Moi, je savais qu'empiler les stars, même si j'ai beaucoup défendu Messi et que je continuerai à le défendre globalement sur ce qu'il a pu apporter à Paris. Pas partout, pas tout le temps, mais voilà. Une fois que Messi a signé, on n'avait plus que 30 ou 40 millions de dispo. Et en fin de mercato, le dernier jour, c'était soit Nuno Mendes, soit Camavinga. On fait Nuno Mendes, donc je ne vais pas regretter Camavinga parce que c'est Nuno. Sur Olise, je connais pas assez le joueur, mais c'est toujours le même problème par rapport notamment à la vidéo mercato qu'on avait fait avec Lionel et ce qu'on remarquait. Olise, c'est un joueur qui n'a joué pas. Voilà, il lui manque un club intermédiaire pour passer entre Palace et Paris. Pour moi, il doit aller dans un club intermédiaire qui va être 5-6e de première ligue ou 4-5e de Liga, etc. Et ce serait trop rapide pour Paris. J'ai peur qu'il se grille comme beaucoup. Et une piste comme Diaby, qui a quitté Paris pour faire 2-3 saisons à Leverkusen, qui a joué l'Europa League, la Conference League, là, qui est encore en demi-finale d'une compétition européenne, qui a pu faire qui a pu être vraiment post-formé dans un club, on va dire, de deuxième, troisième chapeau, ça me paraît moins risqué qu'un au lycée.
Mais du coup, est-ce qu'au niveau du profil,
il y a des droits de débordement. Donc en soi, tu vois, je prends deux profils plus ou moins égaux, même si évidemment ils ont des différences, mais il y a beaucoup moins de risques avec un Diaby.
D'accord. Réco, enchaîne avec Léo Camavinga si tu voulais dire un truc. Excuse-moi de t'avoir zappé, et sinon, donne-nous ton ressenti sur Olicia si tu le connais un petit peu.
Non, sur Kama, pas grand-chose à redire, à part qu'on peut peut-être se rassurer en se disant qu'on l'aurait sûrement moins bien utilisé et moins bien développé que le Real Madrid, et que peut-être il n'aurait pas atteint ce niveau-là chez nous, même si, je pense qu'un crack générationnel comme ça, normalement oui, mais bon, je pense qu'au Real, ils ont vraiment la matière pour développer un jeune comme ça, donc, et je pense qu'on le verra aussi avec Tchouaméni, même si ça prend un peu plus de temps. Enfin, en tout cas, il a sa première année d'adaptation. Mais ça fera, je pense, sensiblement la même chose. Et concernant Olysée, c'est vrai que je ne connais pas trop le joueur, donc je ne peux pas trop en parler, mais de ce que dit Gato, c'est vrai que je suis assez d'accord avec Basto. Pour le coup, c'est peut-être mieux d'avoir un joueur qui a déjà fait ses gammes à Leverkusen, notamment pour Diaby, et surtout par rapport au profil, sachant que tu as des joueurs quand même, tu as un Nuno Mendes qui prend tout son couloir gauche, et tu as souvent des joueurs qui prennent l'axe, que ce soit Neymar ou d'autres. Ce serait bien d'avoir un ailier qui colle la ligne. Et comme c'est vrai qu'Hakimi, il ne monte pas forcément, ou alors il n'est pas toujours bien servi, ou il ne fait pas aussi les bons appels, etc., ce serait bien d'avoir un ailier qui colle sa ligne pour étirer un petit peu la défense et ne pas se retrouver dans un axe bouché. Donc avoir un profil comme Diaby, ce serait intéressant, je pense. Plus intéressant que lui.
Juste pour dire, quand il est arrivé au Real, il a passé une saison sur le banc à Mavinga, et ça permettra de clore. Et ça, c'est un luxe que nous... Est-ce qu'on ne peut pas se le permettre ou est-ce qu'on ne sait pas se le permettre? Je ne sais pas laquelle deux est la bonne réponse, mais en tout cas qu'on n'a jamais fait, quoi. Qu'on n'a strictement jamais fait. Et maintenant, je vais vous faire réagir sur l'arrivée. Alors, c'est un journal croate, je ne sais absolument pas ce qu'il vaut, quoi, mais qui annonce que Lučković s'est signé. Je ne sais pas, Basto, tu tirais une tête bizarre. Qu'est-ce que tu en penses de Lučković?
Non, on l'a vu en Youth League, il a amené son équipe en finale, mais il fait une erreur en finale, en demi-finale, mais c'est pas très très rare. A priori, je ne connais pas le joueur, hein, je vais pas mentir, je ne regarde pas le championnat croate, surtout qu'il n'a fait qu'une dizaine d'apparitions. De ce qu'on sait, c'est un défenseur très technique, qui a un gros gabarit, mais qui est très technique. Si tu prends lui, il a 16 ans. Si vraiment il est considéré comme lui un crack générationnel. On parlait toutes les autres fois de prêter ou vendre El Shaddai. Tu vois, tu prends un mec comme ça, effectivement, tu peux d'un coup considérer une offre de 15 millions pour El Shaddai sans souci, puisque tu ne vas pas faire embouteillage de deux jeunes cracks au même poste, alors qu'on a déjà du mal à intégrer les jeunes. Maintenant, c'est quand même 10 à 13 millions pour un jeune qui a 8 ou 9 matchs pro. C'est un investissement qui est... On va dire semi-risqué, c'est quand même de l'argent. Mais bon, ça peut être rentabilisé comme un Verratti à l'époque fois 10 ou...
Gato, qu'est-ce que t'en penses, toi, de Visco?
Je connais pas. Il faudra bien entourer et bien le développer, surtout. C'est pas qu'on arrive, il nous manque un joueur, on lance les gens comme ça à l'abattage, parce qu'on a vu des jeunes... j'ai fait le déplacement, par exemple, à Lens, et on a vu des jeunes qui étaient complètement perdus sur le terrain parce qu'ils n'étaient pas entourés, et il n'y a pas eu des gammes. Tu viens, ton premier match, tu vas jouer 15 minutes, puis après, tu vas pouvoir en rejouer 15, tu rejoues 30, tu vas avec une progression. Comme ça, le joueur va pouvoir s'habituer au haut niveau, parce qu'il y a un gap entre les U19, il y a l'OSI, etc., et le championnat de France. Physiquement, c'est pas la même chose et tout ça. Donc moi, je connais pas le joueur, mais il faut au minimum, donc je vais pas en parler parce que je connais pas le joueur, mais il faut au moins le bien entourer et assurer une progression tranquille et stable. Pas pressé, on est floué, tu sais, depuis l'éclosion de Mbappé, de Camavinga, de ces joueurs-là très tôt et très vite dans les grosses compétitions, on est floué et on demande à tous les jeunes d'être très bons très vite. Faire doucement.
Mais du coup, toi, Rico, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose et est-ce que tu penses qu'on est un club qui a la capacité justement d'intégrer un joueur qui est, mine de rien, encore en post-formation?
C'est une bonne chose, oui. Après, est-ce qu'on a les capacités Pas forcément. Alors après, maintenant, on change un petit peu de manière de fonctionner, on va dire, sportivement avec Luis Campos. Donc, on peut se dire que s'il va chercher ce genre de profil-là, et il l'a déjà fait avec Sheriff Naga notamment, c'est quand même pour bien les entourer. Tu sais que tu as un Zaïre Emery aussi que tu dois bien entourer et développer. Donc, s'il continue à aller chercher des joueurs comme ça pour les développer, je pense qu'il va mettre aussi tout en œuvre autour pour développer ces joueurs-là. Sinon, ça n'a aucun intérêt juste de les prendre pour les prendre. Donc, je pense qu'il y a un vrai plan autour de ça. En tout cas, je l'espère. Mais sachant comment il travaille et comment il a pu travailler, notamment avec ces profils-là à Monaco et à Lille, je pense qu'il y a quelque chose qui est prévu autour de ça. En tout cas, je l'espère. Sinon, pour le joueur, c'est un joueur qui, c'est un petit peu comme Zaïre Emery ou comme Kamavinga qu'on parlait notamment, c'est un joueur qui bat des records de précocité en Croatie, qui a 16 ou 17 ans et qui a déjà joué chez les pros, qui a commencé chez les pros. Ouais, 16 ans, plus jeune joueur a débuté un derby en Croatie. Il joue dans les sélections croates en Youth League, pareil, il a porté son équipe jusqu'en finale, même si effectivement il a fait une petite boulette, donc on retient que ça pour certaines personnes, mais voilà, ça reste un jeune joueur, donc forcément ça arrive, et c'est un joueur aussi qui a des qualités comparables à celles de Josko Gvardiol. Donc quand tu vois qu'un Gvardiol ça te coûte 100 millions voire plus, tu peux te dire que c'est peut-être plus intelligent de te pencher sur un plus jeune qui a les mêmes qualités, qui n'est pas emmerdé balle au pied, qui a une vraie qualité de relance et surtout qui marque beaucoup de buts, parce que pour le coup il a des statistiques similaires à un milieu de terrain alors qu'il est défenseur central. Il met énormément de buts grâce à sa taille sur les coups de pied arrêtés, etc. Et même défensivement, nous qui encaissons pas mal de buts dans le domaine aérien et sur des coups de pied arrêtés, c'est bien d'avoir un joueur qui prend tous les ballons de la tête.
C'est intéressant que tu aies nommé Gvardiol et j'allais le faire. Est-ce que tu as pas. Enfin, en tout cas, à titre perso, est-ce que Gvardiol serait devenu Gvardiol s'il avait débarqué au Paris Saint-Germain plutôt que débarqué à Leipzig? On est dans un contexte, tu vois, tu es en train de nous nommer que Campos l'a déjà fait à Monaco, mais ouais, à Monaco, pas à Paris. À Paris, c'est un dawa sans nom, il y a des guerres d'influence, des guerres de pouvoir, et je pense que la structure idoine où tu as un mec qui a à la fois les dents qui poussent et qui commence à rayer le parquet, pour qu'il ait une chance, moi j'ai l'impression qu'elle n'y sera pas, quoi. Basto, est-ce que pour toi elle peut y être? Est-ce que tu partages l'optimisme de Réco? Tu répondras après Réco.
Je connais pas la mentalité du mec, donc c'est compliqué de savoir exactement s'il a les capacités pour faire ça. Après, il y a deux solutions, hein. C'est soit tu peux le prendre et le prêter dans un club intermédiaire. C'est pas non plus interdit de le faire. D'autres clubs le font, hein. On pourrait très bien accepter de le prêter dans un club qui joue la Conference League, par exemple, et le récupérer un ou deux ans après, soit s'il reste, bah, comme l'a dit Gato, essayer de l'intégrer intelligemment et pas comme un El Shaddai cette année, même si El Shaddai évidemment pas au rendez-vous, qui se retrouve à pas jouer contre des équipes 15-16e de Ligue 1 et qui se retrouve à jouer d'un coup titulaire contre Lyon, contre Munich en deuxième mi-temps et rentre, donc que des gros matchs où c'est compliqué pour lui, ou à Monaco où il est entouré d'autres jeunes et dans un contexte très difficile, ou alors passons, parce que ça ce serait une catastrophe, peu importe le niveau et le niveau du joueur, ce serait le gâcher. Donc je sais pas, voilà, s'il est vraiment fort dans la rotation, on verra, mais l'idée de le prêter devrait être prise en compte.
Rico, tu voulais réagir tout à l'heure.
Ouais, je suis complètement d'accord, rien n'empêche de le prendre et de le prêter. Si on n'est pas capable de post-former des joueurs, autant les prêter dans des clubs intermédiaires qui le feront pour nous. Et puis surtout, quand on connaît la capacité à Campos de dénicher des pépites comme ça et que Manchester City a été le premier club à faire une offre et que Guardiola le veut absolument, on peut se dire que bon, vu les noms qui tournent autour de ce joueur, c'est quand même assez gage de qualité.
Moi, mes doutes, ce n'est pas sur le joueur, hein. Mes doutes, ce n'est pas sur le joueur, c'est sur la capacité de Paris à l'intégrer et l'intelligence dans la gestion des carrières des jeunes, c'est-à-dire savoir quand est-ce qu'il faut prêter et quand est-ce qu'il ne faut pas. Pour l'instant, on a surtout essayé de prêter pour vendre des joueurs, on ne les a pas prêtés avec la perspective qu'ils progressent pour qu'ensuite ils reviennent. Mais on peut toujours apprendre et demain peut être un peu plus ensoleillé.
D'où l'importance de, parce qu'on parlait, tu sais, du départ de Galtier, de Campos, etc. Mais d'où l'importance de peut-être donner, malgré le travail difficile qu'il a fait sur ces mercatos-là, mais d'où l'importance de donner peut-être plus de temps aussi à Luis Campos pour travailler et pour pouvoir s'inscrire peut-être dans la durée. Parce que quand il y a ce genre de profil qui arrive, s'il y a un plan qui est mis autour de ça, bah, il faut que ça puisse durer sur plusieurs années. Alors que si tu changes sans arrêt de direction, bah, ce genre de profil, ça va être compliqué de les ramener ou de les développer, etc.
Tu me lances parfaitement pour la question d'après. Je ne sais pas si tu as fait exprès, mais si tu as fait exprès, c'est très, très bien joué. Et on va commencer par Gato. Il y a Jean-Michel Aulas qui vient de quitter l'OL. Est-ce que c'est le genre de profil qu'il a manqué au PSG?
Jean-Michel Aulas, il a une histoire particulière. C'est un industriel qui a construit son club de A à Z. Donc il avait absolument la main dessus tout le temps. C'était vraiment lui le patron. Il n'y avait personne au-dessus de lui parce qu'il était et président, à la fois aussi actionnaire, puisque c'était son argent. Après, dans le management, dans la relation avec les gens, il s'est bien entouré parce qu'il savait qu'à un moment, il aurait des limites. Et qu'il a anticipé énormément de choses. Aujourd'hui, à partir des... Allez, je vais être gentil, à partir de 2014, on voit que Jean-Michel Aulas, il est sur un vrai déclin parce qu'il y a l'âge qui arrive et tout ça. Mais franchement, de tout ce qu'il a construit, tout ce qu'il a fait, bien évidemment qu'un genre de... Ce genre de monsieur-là, il aurait pu nous rendre de grands services. Ce profil-là de président qui sait faire des polémiques quand il faut faire des polémiques. Bon, malheureusement, on n'a rien contre Nasser Al-Khelaïfi à ce niveau-là, hein, attention. Mais il a une maîtrise du français extrême. Il s'est piqué par-ci. Il utilise bien les presses. Il a ce jeu de. Le vice de. Avec les autres présidents, la pression sur les arbitres. Bien sûr qu'on aurait eu besoin de lui. Bien sûr qu'on aurait eu besoin de lui.
Basto, qu'est-ce que tu en penses, toi, de Aulas? Est-ce que c'est un profil qui a manqué au Paris Saint-Germain?
Non, c'est un profil comme la Ligue. Enfin, c'est un profil un peu à l'ancienne qui est de plus en plus rare dans le foot d'aujourd'hui, évidemment, où il faut un actionnaire qui arrive, qui met de l'argent et qui met direct des hommes à leur place. À l'époque, il y en avait plusieurs. Il y avait eu Gervais Martel qui est resté longtemps à Lens, Aulas à Lyon. On a eu Hamel à Auxerre qui est resté 40-50 ans, qui a accompagné toute la montée d'Auxerre avec Giroud. C'est des choses qui ne peuvent plus vraiment se faire dans le foot moderne. Donc, non, je vois. Non, je pense qu'on ne peut pas dire que c'est un
C'est
profil qui manque.
paradoxal.
C'est un profil qui n'est plus adapté au foot moderne. Donc.
Mais c'est paradoxal parce que tu vois, enfin, on parle d'un, comme l'a très bien dit Gâteau, on parle d'un président qui a la main mise sur son club. Et là, quand on parle des Qataris, ils ont la main mise sur leur club. Et tu peux aussi dire par rapport à toutes les références que tu faisais, c'est la première fois avec Aulas qu'on a vu de manière importante des directeurs sportifs, avec notamment Bernard Lacombe qui était un conseiller. Et donc, il était capable de cette modernité.
Il a fait beaucoup d'erreurs aussi, hein.
Bien sûr,
Il s'est
faire des
enfermé dans son
choix.
recruté français, dans le coach français
Bien sûr.
absolument,
Oui.
etc. etc. Mais encore une fois, on fait quoi du coup? Un investisseur qui vient du giron parisien et qui arrive.
C'est pas ça l'idée, c'est est-ce que ce qui a manqué à Paris, ça a été quelqu'un qui s'impliquait avec le club sur la durée, mais qui était capable de faire des choix pour le club et pas seulement pour
Bah,
l'image, quoi.
on a, ouais, enfin, c'est toujours l'homme d'un actionnaire. Denisot était un grand président, mais il venait de Canal. On a essayé Cazac, c'est une catastrophe. Mais lui, pour le coup, il s'est bien appliqué, hein, Cazac. Mais on a vu qu'il s'était trop impliqué émotionnellement. Cazac, elle a dit, hein, j'ai pas été un bon président parce que j'étais trop amoureux du PSG. C'est un club qui est, je pense, trop complexe si t'as pas un minimum de détachement. Donc un mec comme Aulas qui arriverait comme ça et qui s'impliquerait totalement avec l'amour qu'il a, c'est-à-dire si c'est un amoureux de base du club et qui. Je sais pas. Pour moi, il faut un détachement.
Et toi, du coup, Réco, quelle est ta lecture justement? Enfin, ça, là où je voyais le rebond, en fait, c'est que tu étais en train de dire Campos, il faut lui laisser le temps, il faut lui laisser l'espace pour de mettre son empreinte. Qu'est-ce que tu en penses, toi, justement, de la problématique Aulas et est-ce que c'est le genre de profil qu'il nous faudrait au Paris Saint-Germain?
Bah, c'est le genre de profil en fait qui nous aurait servi dans les années 2000 ou 2010 jusqu'à peut-être 2012-2013 grand maximum parce que ça a été un magnifique président, un président qui sait prendre des décisions fortes, qui recrutait comme il fallait aussi, qui avait une stratégie qui marchait. On l'a vu que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat. Maintenant, dans le football moderne, dans le football d'aujourd'hui, non, c'est un président aujourd'hui qui est dépassé. Ça fait plusieurs années que c'est le cas, que Lyon est à la dérive totale depuis plusieurs années. Malheureusement, et ça a été évoqué par Basto, son attache à l'OL a fait qu'il a eu du mal à s'en séparer et qu'il doit partir depuis un moment, mais qu'il ne part pas. Il aurait dû d'ailleurs partir dans plusieurs années, dans 3 ans, je crois, il y a encore qui lui restait.
2 ans,
Ça
ouais.
aurait dû être progressif, ouais, 2 ans. Mais au final, ça va se faire là parce que que ce soit Textor, enfin, voilà, ils veulent changer dès maintenant, ils n'en peuvent plus. Dans le temps, oui, mais aujourd'hui, pour moi, c'est un président qui est dépassé, qui n'a pas su se renouveler. Il y a des entraîneurs aussi comme ça qui, aujourd'hui, sont dépassés et qui ont du mal à s'adapter au football moderne. Il y a
Rappelle
des
Giroud en
jeunes
Ligue 1,
entraîneurs
quoi.
qu'on voit.
Bien sûr, mais
Oui, voilà, exactement.
la question,
Et il
elle
y
est
a des jeunes
au-delà.
entraîneurs.
Elle est au-delà, en fait, si tu veux, du mec par rapport au temps où il s'exprime. C'est le profil, c'est-à-dire une personne qui est plus impliquée dans le club et dont l'implication va se traduire sur le terrain.
Bah, après, ça peut être mauvais aussi d'avoir un... Vas-y. Tu vois, par exemple, Nasser, quand il était plus impliqué au club, ça n'a pas empêché qu'il prenne de mauvaises décisions, qu'il interfère trop et qu'on lui reproche au final de trop s'impliquer et de faire de mauvaises choses. Au final, il a pris du recul et aujourd'hui, on se dit... peut-être ce serait mieux un président qui est plus présent et qui prend plus de décisions. Donc c'est délicat à jauger, être plus présent oui, mais autant faire du fin, faudrait quand même qu'il fasse du bon boulot aussi. Donc c'est délicat à gérer, mais en tout cas je pense pas qu'un Jean-Michel Aulas pour l'heure aurait été un bon choix. Maintenant, dans tous les cas, il faut quand même un président un minimum présent, hein, qui ait du charisme, qui sache prendre des décisions fortes, qui se fasse respecter, que ce soit en Ligue 1 ou en Europe surtout. Parce que pour le souci du Paris Saint-Germain, c'est peut-être à l'échelle européenne et pas forcément en Ligue 1. Mais du coup, on peut se poser aussi la question pour Nasser, qui est là depuis maintenant 12 ans. Et 12 ans, c'est quand même beaucoup. Donc peut-être partir avec un nouveau président sur plusieurs années. Maintenant, ça, ce serait pour moi une bonne solution, autre que Jean-Michel Aulas. Mais ça ne se fera jamais parce qu'on sait que Doha ne changera pas.
Tout à fait.
Juste pour rebondir. Évidemment, les gars, je suis d'accord avec vous. Que maintenant, Aulas, on n'en veut pas parce qu'il est dépassé par les événements et qu'il a fait n'importe quoi. Moi, j'ai vraiment dit, là, en tant que personne qui avait du lien, notamment... bon, il a eu des difficultés à Lyon avec la ville un petit peu parce qu'il voulait faire son stade au début des années 10 et ils l'ont bloqué. Mais vraiment, à l'époque, il était sur l'anticipation permanente. Bon, après, il a tout perdu, je ne sais pas ce qui lui est arrivé.
Bah, depuis le passage en bourse de Lyon, ça a été le début de...
Début de la fin, début des problématiques, de la preuve. Aujourd'hui, l'Olympique Lyonnais n'est pas champion de France depuis 15 ans. Et c'est dû aussi à ça.
Ok. Ben oui, oui, bien sûr. Après, c'est complètement illusoire. Et toutes les discussions en fait, sur la présidence au niveau du Paris Saint-Germain on taquine inévitablement l'illusion, mais on peut se permettre de rêver et de se dire ben, peut-être qu'on pourrait faire mieux et se demander à quoi ça devrait ressembler si on devait essayer quelque chose. Maintenant, je vais vous proposer un jeu, et n'hésitez pas hein, dans le chat. Le jeu, les règles, elles sont simples. Vous avez 200 millions. Alors, Réco, tu as bien fait tes devoirs, donc tu as lu le sujet, donc tu as dû y gamberger avant. Tu as 200 millions à dispo, mais tu peux les mettre sur un seul secteur de jeu. Sur quel secteur de jeu tu les mets et quels sont les joueurs, comment tu les dépenses? Qui veut commencer?
Je laisse la main.
Ben, il a parlé en premier, donc c'est à vous de commencer, soit Réco, soit Gâteau. Sinon, je vais jeter une pièce et puis je vais en nommer un.
Allez,
vas-y.
Merci. De toute façon, on sait qu'il y a des problèmes partout, mais mine de rien, moi je pense quand même que je vais sur la défense. Le milieu de terrain, on sait que c'est des galères, on l'a vu, on le sait. Aussi, c'est un secteur, je pense que mes compères vont le choisir, mais la défense aussi. Ramos, pour moi, il faut qu'il sorte. Marquinhos, c'est bizarre. Kimpembe, trop blessé. Nuno Mendes, trop blessé. Hakimi, performance en dents de scie. Et un peu décevante, mine de rien. Et la défense, je ne sais pas si on inclut le gardien. On ne va pas l'inclure parce que... Voilà. Les défenseurs, là, il n'y a rien qui va. Donc, il faut aller là-dessus, je pense. Essayer d'amener des petites trouvailles, il y a des joueurs, il y a des Skriniar qui devraient arriver. Est-ce que tu pars à 3, est-ce que tu pars à 5, est-ce que tu pars à 4 T'entends pas, Adrias.
Tu as beaucoup d'argent à dépenser encore, j'ai l'impression. T'as pas dépensé beaucoup là.
Ouais, mais non, mais.
Tu as 200 millions.
Déjà, j'ai viré.
On les dépensé. Hein.
Non, mais j'ai viré, donc il y a des mecs qui arrivent libres. Moi, je vais essayer d'aller chercher une doublure, même si lui aussi se blesse un peu, mais j'ai essayé d'aller chercher Guerreiro pour la gauche, arrière-gauche. Bernat, pour moi, c'est au revoir. Arrière-droit, Mukiele, j'essaie de le remplacer un peu dans l'axe et d'aller chercher un... j'aime bien Vanderson à Monaco, juste pour le banc, pour essayer de titiller Hakimi. Il peut être utile là-dessus et pour progresser aussi, vraiment sur le banc. Défense centrale, moi je vais sur Bastoni, j'aime bien Bastoni, il y a l'impact qu'il a, Skriniar qui arrive.
Mon alter ego italien.
Voilà. Et puis après, je sais pas. J'aurais pris, avant qu'il signe du côté de Dortmund, il était à Gladbach, j'aurais pris Rami Ben Sebaini, mais il est parti. Même en tant qu'arrière gauche, il aurait pu faire du bien. Titi Nuno Mendes, je pense que Nuno Mendes aurait eu du souci à se faire, même s'il est des fois replacé dans l'axe aussi. Après, j'ai plus tant d'idées que ça, mais moi, il faut que je. Marquinhos. Faut le titiller, faut les titiller. On ne peut pas les laisser être comme ça dans un confort trop longtemps. Donc il me faut un défenseur fort. Je sais pas Kassé Loukeba de Lyon là. Il peut nous aider aussi, franchement. Il y a des Todibo, il y a du monde. Il y a du monde qui peut venir aider Paris Saint-Germain. Mon budget, je ne sais pas trop comment j'ai géré, mais comme le dit Gixo, il faut un patron en défense centrale. Mais il faut des gens qui soient sûrs. Il y a Danso, de Lens, il y a du monde. Il y a énormément de personnes. Même Saliba, même s'il a joué à l'OM ou quoi, je sais pas.
Moi, Saliba, je m'en fous qu'il joue à l'OM.
Là, on a besoin. On a vraiment besoin. Même Lisandro Martinez qui était à l'Ajax et de ça, ils font des trucs intéressants ailleurs. Donc, il nous faut des joueurs sûrs. Il faut des joueurs qui soient fiables. Même s'ils ne sont pas forcément très très forts, il faut de la fiabilité.
Reçu. Bon, bah, Basto, Reco, il y en a un de vous deux qui doit s'y coller maintenant. Qui s'y va?
J'y vais, allez. C'est impossible ce sujet. C'est absolument impossible ce sujet parce que
Merde.
tu fais toutes les lignes et tu regardes, c'est pas possible.
Ah, t'en prends qu'un, tu prends qu'une seule ligne. Hein.
J'ai me différencié. Peut-être que je laisserai le milieu à Reco. Du coup, je vais prendre l'attaque. Qui est peut-être la moins évidente.
Évidente.
Mais si tu te. J'ai un peu triché. En ligne d'attaque, tu prends Bernardo Silva. Donc, il peut jouer le milieu. Ça aide. Tu prends évidemment un œuf de surface, que ce soit Osimhen ou Kane. Ça coûte déjà cher. Hein. Donc, si on est déjà à 60, 70 Bernardo, 90 millions Kane. Et puis tu prends un ailier qui peut jouer piston gauche ou piston droit dans une défense à 5. Comme ça, tu as un défenseur, un milieu et un attaquant. Je suis un peu l'escroc, mais bon.
Je réexplique la règle du jeu à DZ94, c'est vraiment un jeu, on doit tout mettre sur une seule ligne, laquelle tu choisis et avec quels hommes tu y vas.
Du coup, j'ai fini, c'était pas mal, non? J'ai vu
Ouais,
trois
ça
hommes.
tient la route, ça tient la route. C'est malin pour essayer de renforcer toutes les lignes, quoi. À toi, Rico.
Bah moi, du coup, c'est le milieu de terrain, parce que pour moi, le milieu de terrain, c'est un peu la base, c'est un peu ton maillon qui gère toutes ces deux lignes-là. Et quand le milieu de terrain va bien, que ce soit défensivement ou offensivement, bah, l'attaque va bien, l'attaque va mieux, et la défense va bien ou l'attaque va mieux. Donc, pour moi, c'est primordial le milieu de terrain. Alors après, avec 200 millions, tu peux aller dans le fantasme avec Bellingham, avec Barella. Maintenant, si je peux. Puis même défensivement, je vais dire que défensivement, tu peux avoir quand même Danilo, Marquinhos, Kimpembe, il y a Skriniar libre qui va arriver. Donc, si ton milieu de terrain va bien, je pense que ta défense pourrait aller mieux avec ces profils-là, offensivement aussi. Donc, je vais mettre le milieu et si je peux choisir des joueurs, je vais prendre Bernardo Silva, je vais prendre Barella, je vais prendre un 6 comme Brozovic ou peut-être Amrabat qui, je pense, pourrait quand même augmenter son niveau de jeu, parce que je pense qu'on peut avoir quand même des doutes sur lui à juste titre, mais je pense qu'il a la capacité à augmenter son niveau de jeu. Donc un Brozovic ou un Amrabat en 6, un Rabiot libre, un Bernardo Silva, un Barella, et je pense qu'on est déjà bien avec ça. Hein.
Ok, d'accord. Bon, bah, je ne sais pas qui a gagné, hein, c'est dans le chat à vous le dire. Après, on a une équipe un peu funky avec les trois lignes que vous avez trucs. On n'a qu'un seul attaquant, mais c'est pas grave, on va s'en contenter. Et on ira très loin comme ça. Il reste un dernier sujet à aborder qui est un peu funky. N'hésitez pas à dire, c'est pas mal ce qu'il propose Vincent.
Bon, c'est ouais,
Ouais, mais
bah,
après,
oui, bah, je pense
il
que.
fait milieu attaque, donc il triche un petit peu, mais pour le coup, c'est pas
Ouais,
mal.
t'as triché.
Il y a un sujet, ouais, il y a le CAP qui a décidé de suspendre ses activités. Alors déjà, qu'est-ce que vous en pensez? Et la première truc, c'est qu'est-ce que vous en pensez? Et est-ce que le Qatar en a quelque chose à faire? Rico, tu commences.
Oh, putain. Ça, c'est un sujet qui, vraiment, pour le coup, on en a parlé et j'en ai marre d'en parler parce que, ouais, c'est un sujet qui me plaît pas, qui divise trop, qui. Et il y en a marre de ce sujet-là. Euh,
Ah mais
maintenant,
c'est
qu'est-ce que tu veux
l'actualité, mec.
dire?
Il fait
Ouais,
l'actualité.
bah, il faut en parler, il faut en parler, on va en parler, mais vraiment, c'est pas quelque chose qui me tient à cœur. Alors, est-ce que Nasser en a quelque chose à faire ? Ça, non. Dans tous les cas, on le sait depuis un moment. Il n'est jamais là pour discuter avec eux. Il fuit un peu le truc. Ça fait un petit moment qu'on l'a remarqué. C'est pas un secret de polichinelle. Le club voudrait parler avec lui, mais voilà, il se défile. Il laisse tout le temps des intermédiaires. Encore une fois, d'ailleurs, c'est sorti aujourd'hui, je crois. On a vu que le déplacement des ultras a été suspendu à 3 et que lui, apparemment, n'était pas au courant. Alors, est-ce qu'il se dédouane ou c'est vraiment la vérité ? On ne sait pas, mais en tout cas, ça prouve encore une fois. Ouais, dans les deux cas, c'est grave. Puis ça prouve encore une fois que il en a rien à faire concrètement. Maintenant, à qui les torts, à qui raison, à qui machin. Tout le monde a ses torts, tout le monde un peu a ses raisons, tout le monde. Le truc, c'est que Nasser. Je pense qu'il n'a pas envie de se prendre la tête en fait, avec les ultras. Il les a fait revenir sous condition. Ils ont signé une charte. Donc, ils savaient depuis le début qu'ils avaient les mains liées et qu'ils ne pouvaient pas faire tout et n'importe quoi. Maintenant, on est arrivé aujourd'hui à un stade où les revendications sont un petit peu normales, même s'il ne faut pas pousser ça à l'extrême, que ce soit le projet Île-de-France, que ce soit absolument rester au Parc des Princes, etc. Y a des revendications qui sont légitimes, mais il y a d'autres où il ne faut pas pousser. Et c'est là où je vais donner tort aux ultras, où il ne faut pas non plus pousser les choses. Le club a besoin aussi de se développer, c'est normal. Y a des choses où, voilà, où on évolue, et ce n'est pas renier son histoire que d'évoluer. Donc, pour moi, les torts sont partagés et Nasser aussi doit savoir se remettre en question, doit savoir prendre certaines décisions, doit remettre aussi l'église au milieu du village, faire respecter l'institution par rapport aux joueurs aussi, au comportement de certains, les passes droits notamment. Donc, pour moi, les torts sont partagés et ce qui m'énerve, c'est que, voilà, comme j'ai déjà dit, il n'y a plus de nuance. C'est soit tu es noir, soit tu es blanc. On te met dans une case par rapport à ce que tu penses. On interprète ce que tu penses. On te met dans une case. Donc, du coup, soit tu es pro-Qatar, soit tu es pro-Ultra. Et ça commence à me poser problème parce qu'il y a une nuance qui doit être faite, tout simplement.
Basto, je te laisse enchaîner.
On sait tous que Recoba est pro-Qatar.
c'est marqué sur chaque côté.
Non, je pense que... Je défends pas le cup personnellement, j'ai beaucoup de points de désaccord avec leur manière d'agir, notamment leurs revendications. Maintenant, quand tu bloques l'accès à 3 pour revendiquer parce qu'ils ont manifesté contre la direction et contre Nasser, évidemment, c'est un peu ridicule. Je pense que, comme l'a dit Reco, Nasser et la direction n'en ont rien à faire. De toute façon, il y a une phrase dans l'équipe qui dit un peu tout ce matin, c'est « En interne, au sein du club parisien, certains se demandent s'il est utile de consacrer du temps à 3000 supporters pendant que plusieurs milliers de personnes attendent pour s'abonner. » Je crois que c'est assez clair. Classe business, classe machin, on s'en fout à la limite de l'ambiance. Oh, en plus, ils viennent de nous critiquer, ces gentils supporters qui sont à notre botte. Donc voilà, le problème, c'est pas ces ultra cup que je n'apprécie pas forcément, mais j'ai l'impression qu'ils veulent faire un grand reset sur l'idée même de pouvoir avoir un autre cup, de pouvoir avoir des ultras ou une mouvance, c'est qu'on aura peut-être, on va peut-être revenir à une époque juste post-plan le prou où le stade sera vide où on entendra
version pleine,
mais ouais. sans ambiance quoi, on entendra les supporters adverses, ça m'étonnerait pas, c'est voilà qu'on finisse sans ultras, ça m'étonnerait pas. Le cup savait très bien de toute façon et on savait très bien qu'à partir du moment où ils ont manifesté leur mécontentement, notamment contre la direction, qu'ils allaient au clash et que la direction réagirait comme ça, on les connaît.
Mais ça faisait pas partie du spectacle pour tous les supporters étrangers qui payaient des billets, des 1000 et des 100, le fait qu'il y ait un mur
à l'extérieur surtout.
Même pour les gens qui venaient au Parc des Princes, t'as des gens qui venaient pour voir entre autres parce qu'il y avait cette ambiance.
Ouais, je pense que c'était
N'hésite pas à
voilà, c'est puis même comme j'ai dit la dernière fois en fait aujourd'hui maintenant les touristes ou les supporters, quelques supporters on va dire, viennent pour voir plus les joueurs que l'ambiance, donc du coup il y a une vraie évolution à ce niveau-là.
Gâteau, quelle est ta lecture toi sur cette séquence d'événements qui amène là à le cup qui est le dernier à avoir mis le drapeau, c'est-à-dire décider de suspendre ses activités, et on va attendre la réponse du club, mais on peut commencer à l'imaginer. Quelle est ta lecture là-dessus?
Moi, j'ai une position particulière parce que j'étais à l'action quand il y a eu des personnes sur le camp des loges, j'y étais. Comme j'habite à 20 minutes du camp des loges, moi je peux me permettre. Il n'y a pas à dire oui, il fallait venir, il fallait pas venir. Tu veux venir, tu viens. Tu veux pas venir, tu viens pas. On va pas te juger pourtant. Tu sais, tu as des supporters du Paris Saint-Germain qui n'habitent pas en France, qui n'habitent pas en Europe, qui habitent en Afrique, en Asie. C'est pas quelque chose de simple pour eux de venir. Maintenant, le club qui suspend ses actions, il y a un ras-le-bol du côté du club, je pense. Mais le club, déjà, dans le club, c'est assez compliqué dans le sens où C'est une association de plusieurs supporters. C'est un collectif, collectif Ultra Paris. Donc déjà, dans les associations, il y a déjà des problèmes. Ça aussi, que les gens, il faut que les gens prennent en compte ça. Et c'est pas juste une seule association, un chef, et hop, on y va. Non, il faut s'organiser, faire des réunions. C'est déjà assez compliqué. Donc, les différentes actions qui ont mené jusqu'ici, donc la protestation devant chez Neymar, protestation devant la factory. Ok, d'autres ont dit qu'il fallait se réveiller plus tôt. Bah, nous, on est allé, quand je peux m'inclure dans nous, on est allé au camp des loges. Alors, peut-être que c'était pacifiste et que ça n'a peut-être pas changé grand-chose, mais on a essayé de se bouger. Maintenant, mieux vaut tard que jamais, ils ont essayé de faire des choses et ils essaient au moins d'avoir un semblant de contre-pouvoir, parce qu'on sait que le Paris Saint-Germain est dirigé par QSI et que QSI n'a aucun. J'ai l'impression qu'il n'a plus du tout, en tout cas, de considération pour les supporters du Paris Saint-Germain. Là, on est vu comme des numéros ou comme des billets. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile. Et je vous invite à regarder les propos de Thierry Henry, qui a dit que n'importe quel grand club, alors que le Paris Saint-Germain, pour moi, hein, même si j'aime de tout mon cœur, et je considère ce club comme un membre de ma famille, n'est pour moi pas un grand club européen. Parce que sportivement, structurellement, il faut faire d'autres choses. C'est le meilleur club français, et ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il faut qu'il considère ses supporters. Et au bout d'un moment, quand tu vois le divorce qu'il y a, c'est que dans les deux parties, je trouve des torts. Peut-être que le fond est bon sur le fait de vouloir changer la direction sportive. Quand on a regardé la lettre, j'ai vu ça sur Twitter l'autre fois, il y avait un communiqué dans le sens où ils allaient dire à la direction, on veut changer ça, 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 ça. Ah ben, les gars, même si on veut, ce que vous faites, c'est bon, et c'est louable, la direction sportive, le maillot SR et tout ça, t'arrives devant un patron, tu veux pas lui dire, maintenant, on va essayer de changer ça, 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 ça. Il faut essayer de trouver d'autres formes, d'autres mots pour qu'on puisse en discuter et que ça aille dans
ouais, le sens de tout le monde. Mais t'as une problématique par rapport à ça, Gato, c'est quand le patron, il parle pas à toi, tu fais quoi?
Eh ben, tu peux plus rien faire, sauf que comment les ultras sont revenus? Il faut revenir à la genèse. Qui a pu faire revenir les ultras? Alors oui, il y a eu les demandes de Blaise Matuidi, merci. Zlatan Ibrahimovic, merci. Il y a eu même Rabiot quand on a parlé, merci. Parce que tout le monde termine Rabiot, même les gens du Cup ont terminé Rabiot 3 ans plus tard quand il est parti. Il faut savoir comment aussi ils sont revenus. Ça, c'est un truc aussi qu'il ne faut pas oublier. Mais qui a validé tout ça? C'est Nasser. Sous condition, comme Recoba l'a dit, et la condition, c'est la charte. Il y a un truc qui est signé. Vous respectez pas, vous sortez. Lui, Nasser, il aura ses billets, il aura son truc, il aura avec tous les touristes qui vont venir. Même si, comme Basto l'a dit, le fait est que les touristes viennent, c'est peut-être aussi parce qu'il y a le CUP, parce qu'ils sont impressionnés et tout ça. Ça fait partie aussi de
leur stage.
Maintenant, moi, franchement, ça me fait de la peine parce que j'aurais aimé avoir 2 virages, mais on sait que c'est pas possible, parce que si tu remets encore la tribune de Boulogne, tu vas réavoir des problèmes qu'on a eus. Moi, je me rappelle, j'avais 12-13 ans, 2009, je ne pouvais pas aller au Parc des Princes. Il faut que les gens s'imaginent ça aussi. Le retour des supporters, ce n'est pas que des supporters lambda. Là, on parle d'ultra, c'est une culture, c'est une manière de voir les choses. D'autres disent qu'elle est extrême, pas extrême, moi, je m'en fiche. Ça sert au club. Ça sert aux joueurs aussi, ça sert aux autres supporters. Moi, je voudrais qu'ils restent, honnêtement. Qu'ils soient dégoûtés de la saison, c'est une chose. Qu'ils mettent leurs activités en stand-by pour la fin de saison, oui. Mais attention à la dissolution. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut arriver. Et j'ai pas envie que ça arrive, parce que mine de rien, depuis qu'il y a les ultras, ça pousse aussi, ça pousse.
Compris. Et y a une remarque qui est vraie, et je trouve que DZ le résume bien. C'est quoi un club sans supporters? C'est pas un club, c'est une équipe de five. Il y a quelque chose de vrai là-dedans. Après, il y a Captain pour Albouch qui disait que, en effet, les influenceurs, etc.
Alors, juste pour répondre à Caporal, c'est nous, oui. Ne vous voilà, pas qu'à terme, c'est les influenceurs postent des vidéos à partir de moi, ça ne va pas se retourner contre l'image. Rien que voir des influenceurs qui prennent des photos d'eux en selfie au parc, ça retourne l'image contre le club.
Bien sûr, mais ça permettait d'avoir un cap. Après Recoba a peut-être raison, et que maintenant les gens viennent juste pour voir les joueurs. Et si les gens viennent juste pour voir les joueurs, bah, fondamentalement, le départ de Messi fait beaucoup plus mal que le départ du cap. Donc.
Voilà, oui, puis pour l'image du club, ce serait d'avoir des tribunes vides, le problème. Or que là, le fait que les ultras ne soient plus là, bah, tu vas avoir quand même un stade plein et du coup, pour l'image du club, ça ne bougera pas.
Il y a des chances. Il y a des chances. Messieurs, est-ce que vous voyez un truc à ajouter ?
Non.
Vas-y, Rico.
Non, bah non, simplement dire que ouais, non, je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Gato. Et c'est vrai que la tribune Boulogne de retour, ce serait bien, mais effectivement, les ultras, c'est une culture. Et pour le coup, que ce soit Auteuil et Boulogne, c'est très, très opposé. Et il ne faut pas oublier qu'il y a eu des morts, il y a eu des graves problèmes, qu'il y avait un climat hostile autour du parc et que c'était très compliqué d'y aller quand tu étais plus jeune, même quand tu allais en famille ou même entre potes. Donc tout ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Et pareil, pour ceux qui souhaiteraient le retour de l'émique de l'époque colonie capitale parce que ça mouillait le maillot, alors déjà, ça ne mouillait pas le maillot. Et en plus de ça, c'était des heures très, très sombres. Donc quand vous parlez du passé, peut-être parler Canal et Borély à la limite, mais surtout pas colonie capitale.
Et ouais, pour Boulogne, il ne faut pas rêver parce que déjà, il y a Auteuil qui pourrait être en danger. Donc, le retour de Boulogne, c'est pour pas tout de suite. Sur ce, messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous. J'espère que vous avez tous passé un bon moment et n'oubliez pas, ici, c'est Paris. Ciao tout le monde.
Salut. Ciao.
Ciao.